Franchement, c'est dingue de s'imaginer la scène quand on y pense. On a cet homme, il y a 2000 ans, qui écrit une lettre pour essayer de régler des petites querelles locales dans des communautés naissantes en Asie mineure, quoi.
Ouais, des toutes petites communautés en plus.
C'est ça. Et ses détracteurs, en fait, ils remettent en question son autorité. Et là, pour se défendre, il prend une prophétie cosmique, un truc vieux de 7 siècles, qui parle du salut du monde entier, et il dit, le plus calmement du monde, ah, au fait, ce texte millénaire, ben, il parle de moi.
C'est clair que dit comme ça a l'air fou.
Mais c'est d'une audace incroyable. Et pourtant, c'est exactement ce que fait l'apôtre Paul dans sa fameuse lettre aux Galates.
C'est vrai que, avec notre regard moderne, cette affirmation, elle semble complètement démesurée. On pourrait presque se dire qu'il a la folie des grandeurs, le gars, quoi.
Totalement.
Mais en fait, pour vraiment capter la mécanique de ce qui se joue là-dedans, il faut se plonger dans la tête des auteurs anciens. La façon dont ils voyaient leurs propres textes sacrés.
C'est-à-dire?
Bah, ils ne voyaient pas ces écrits comme des archives historiques poussiéreuses, tu vois. Pour eux, c'était des forces vivantes, des textes actifs.
D'accord, alors décortiquons tout ça. Notre exploration d'aujourd'hui, elle se base sur la session 4 du cours magistral du docteur Matthew S. Harmon, qui s'intitule L'utilisation de la Bible par la Bible. C'est un super contenu qui est parrainé par biblicallearning.org.
Ouais, un cours vraiment fascinant.
Et donc, c'est une étude de cas hyper spécifique tirée du livre du docteur Harmon. Ça se concentre sur la façon dont l'apôtre Paul, dans le tout premier chapitre de l'épître aux Galates, utilise le chapitre 49 du livre d'Ésaïe.
Exactement.
Et la mission de notre analyse, c'est pas juste de faire une liste de citations, c'est de comprendre comment un texte antique peut s'imbriquer dans un autre, un peu comme des poupées russes, pour en modifier totalement la portée.
Et ce qui est vraiment captivant ici, c'est l'approche que le docteur Harmon propose pour trouver ces connexions invisibles. Il déploie une vraie méthode d'enquête, quoi, en quatre étapes.
Une méthode d'enquête, carrément.
Ouais, pour révéler comment la littérature historique, elle interagit en profondeur, on est à des années-lumière de la simple décoration littéraire, quoi.
Genre, juste glisser une belle citation pour faire intelligent, quoi.
Voilà, c'est pas ça du tout. C'est une architecture structurelle profonde. Et la première étape de cette méthode, c'est d'identifier l'allusion, le travail de détective.
D'accord. Mais concrètement, comment on fait? Avant même d'analyser le sens, il faut prouver qu'il y a une vraie connexion intentionnelle, non? Comment on repère qu'un auteur fait secrètement allusion à un autre texte sans jamais donner son nom?
C'est une super question. Et les chercheurs, ils font pas ça juste de mémoire, hein, ce serait impossible.
J'imagine, oui.
Aujourd'hui, il y a des outils d'une précision incroyable pour traquer ces échos. Le docteur Harmon, par exemple, il mentionne un outil qui s'appelle le Connecting Scripture New Testament.
Ah oui, celui publié par la Christian Standard Bible.
C'est ça. En gros, c'est une base de données de références croisées. Ça fonctionne un peu comme un algorithme de reconnaissance de motifs textuels, tu vois. Ça aide vraiment à vérifier si nos intuitions sur le texte, elles sont fondées sur de vraies correspondances.
Et justement, les correspondances que le docteur Harmon a trouvées entre les 6 premiers versets d'Ésaïe 49 et Galates 1, versets 15 à 17, elles sont juste massives.
Ah oui, c'est indéniable.
Mais là, je dois préciser un truc crucial pour ceux qui nous écoutent. L'analyse se base sur la Septante.
Oui, la fameuse LCTEX.
Voilà. Pour poser un peu le contexte, la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu. Elle a été faite pour les communautés juives qui vivaient dans le monde grec et qui parlaient plus du tout hébreu.
Et vu que Paul écrivait en grec, il lisait très probablement cette version-là.
Exactement. Et quand on met ces deux textes grecs côte à côte, il y a des expressions identiques qui sautent aux yeux, quoi. Des trucs comme « depuis le ventre de ma mère » ou le fait que Dieu a appelé mon nom.
Ouais.
On retrouve même cette notion, tu sais, de la complainte d'avoir, je cite, « travaillé en vain ».
C'est fou. Ces chevauchements de vocabulaire, ils créent un premier pont hyper évident. Mais le vrai génie de cette intertextualité, il est dans des nuances beaucoup plus fines, des trucs presque chirurgicaux.
Ah bon? Comme quoi?
L'analyse devient vraiment percutante sur deux détails très précis. Le premier, c'est juste une petite préposition.
Une préposition?
Ouais. Dans sa lettre, Paul dit que Dieu a choisi de révéler son Fils en moi. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de nos traductions modernes, elles lisent le texte. Elles traduisent par « révéler son fils à moi ».
Bah oui, c'est vrai, parce que l'image qu'on a naturellement, c'est celle d'une révélation extérieure, un truc un peu spectaculaire, genre une vision qui apparaît devant tes yeux, quoi.
C'est ça. Sauf que le texte grec d'origine, il utilise sciemment la préposition qui veut dire « en », à l'intérieur, dans son être profond.
Oh, d'accord.
Et la raison de ce choix, elle est frappante.
Ça fait directement écho au texte d'Ésaïe 49, au verset 3, où Dieu parle à son serviteur en disant « En toi, je serai glorifié ».
Ah ouais, donc Paul, il décrit pas un message qui vient de l'extérieur, il décrit l'incarnation d'une réalité, en fait.
Exactement. Et la deuxième nuance lexicale, franchement, elle est encore plus pointue.
Vas-y, je suis curieuse.
Dans Galates 1, au verset 10, Paul définit son identité en disant qu'il est « serviteur de Christ ». Le mot grec qu'il choisit là, c'est le mot « doulos ».
Doulos, d'accord.
Et pour capter pourquoi c'est important, il faut regarder comment la Septante traduit le mot « serviteur » dans tout le reste du livre d'Ésaïe. Dans presque tout le livre, les traducteurs grecs ont choisi un autre mot, le terme « peis ».
Donc Paul fait un choix de vocabulaire qui casse complètement la norme habituelle.
C'est bien plus que ça. L'unique exception, la seule fois où le mot « doulos » apparaît, à la place de « peis » dans tout ce gigantesque livre d'Ésaïe, c'est précisément dans Ésaïe 49 au verset 3.
Attends, t'es en train de dire que c'est le seul endroit.
Le seul et unique endroit, c'est une vraie anomalie statistique, quoi.
Et c'est ce mot-là, exactement ce mot-là, que Paul sélectionne.
Mais c'est incroyable.
Ça me fait tellement penser, tu sais, à un producteur de hip-hop super pointu.
Comment ça ?
Bah, imagine un producteur qui veut intégrer un sample ultra-obscur d'une vieille chanson soul des années 60. Quand tu écoutes le morceau de rap, si tu connais pas la chanson originale, bah tu kiffes juste le rythme, quoi. Mais tu rates complètement la subtilité.
Ouais, je vois tout à fait.
Par contre, si tu as l'oreille musicale et que tu reconnais ce tout petit échantillon d'une demi-seconde, tout le sens du morceau change pour toi. Tu captes l'hommage, la filiation. Et là, c'est pareil. Paul a littéralement samplé l'unique occurrence du mot « doulos » de tout Ésaïe.
C'est une super métaphore. Il fait ça pour forcer ceux qui ont la culture biblique à faire le lien tout de suite.
C'est brillant.
C'est un mécanisme d'allusion juste parfait. Et du coup, une fois qu'on a repéré ce sample, comme tu dis, la deuxième étape, c'est de faire l'autopsie du texte source.
Ce que le docteur Harmon appelle le texte d'honneur, c'est ça ?
Voilà, le texte d'honneur, Ésaïe 49. Et avant même de l'interpréter, les exégètes vérifient toujours un truc, la stabilité du manuscrit.
Pour être sûr qu'il n'y a pas des erreurs de copie, des variantes qui pourraient tout fausser.
Exactement. Et ici, bonne nouvelle, la tradition manuscrite est super solide. Le docteur Harmon précise d'ailleurs que si on veut vérifier ces détails techniques sans être un expert en grec ou en hébreu, les notes de la Net Bible sont une ressource vraiment fantastique.
Bon, alors une fois qu'on sait que le texte d'Ésaïe est fiable, la grande question c'est pourquoi ce chapitre 49 ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce texte d'honneur pour que Paul s'y accroche comme ça ?
Pour piger ça, il faut regarder le contexte horizontal, le paysage global du livre d'Ésaïe, quoi.
D'accord.
En fait, il y a une tension dramatique qui monte au fil des chapitres. Dans Ésaïe 42, on découvre une figure de serviteur. Et ce serviteur, il représente la nation d'Israël en tant que collectif.
Ok, le peuple entier.
Sauf que, très vite, ce serviteur collectif, il est décrit comme étant sourd, aveugle et globalement défaillant dans sa mission spirituelle. Il a échoué, quoi.
Ah.
Et c'est là que le chapitre 49 intervient comme un énorme point de rupture. Le texte introduit un nouveau serviteur. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un collectif, c'est un individu.
Un serviteur individuel, d'accord.
Et la mission de cet individu, c'est de restaurer la nation, de réussir là où tout le groupe a tragiquement échoué.
Attends, et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'il y a une contradiction énorme qui me saute aux yeux quand on lisait source.
Ah oui, laquelle ?
Ben, si Ésaïe 42 décrit Israël comme un serviteur aveugle, sourd et incompétent, comment l'auteur de l'évangile de Matthieu peut-il citer ce même passage d'Ésaïe en disant « Regardez, c'est l'accomplissement de la vie de Jésus ».
C'est une excellente remarque.
Parce que dans la théologie chrétienne, Jésus, il est ni aveugle, ni sourd, et c'est surtout pas un échec. On a l'impression que Matthieu, il tord carrément le texte pour le forcer à coller à son histoire, non ? Il y a un gros problème de logique.
Ouais, cette friction, elle est hyper légitime. C'est un truc qui perturbe beaucoup de lecteurs modernes. Mais en fait, notre erreur, c'est qu'on lit l'histoire antique comme une ligne droite, tu vois ? Genre la prophétie A annonce l'événement B, point barre.
Alors que c'est pas comme ça qu'il pensait.
Pas du tout. Les penseurs bibliques y voyaient plutôt l'histoire comme une spirale. Un schéma qui se répète et qui s'amplifie à chaque fois.
Une spirale ?
C'est ce que le docteur Harmon appelle la typologie. Matthieu n'ignore pas du tout les chaînes d'Israël dans Ésaïe 42. Au contraire, il montre qu'Israël, c'était la première tentative, le premier fils appelé par Dieu, et ça a posé un modèle.
Ok, je vois.
Et ensuite, il présente Jésus comme le serviteur ultime. celui qui repasse par toutes les mêmes étapes historiques que la nation, mais qui, lui, accomplit le modèle parfaitement.
Donc, si je résume, au lieu de voir la prophétie comme une boule de cristal qui prédit l'avenir de façon isolée, c'est plus l'identification d'une empreinte dans l'histoire qui finit par trouver son moule parfait.
C'est une très belle façon de le dire. Ce motif, il est central, c'est ce qu'on appelle le contexte vertical du texte, à travers le temps.
D'accord. D'une époque à l'autre.
Ouais, de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, Dieu utilise toujours le même mode opératoire, en fait. Il soulève un individu pour sauver ou créer un collectif.
Ah oui, comme Adam pour l'humanité ou Moïse pour les Hébreux.
Exactement. David pour le royaume et au final, le Messie. Et le truc dingue, c'est que la grammaire hébraïque du livre d'Ésaïe illustre ça de façon spectaculaire.
La grammaire carrément, hein.
Oui. Jusqu'au chapitre 53, tu sais, le chapitre super connu qui décrit la souffrance et la mort de l'individu, le terme serviteur est toujours, toujours au singulier.
D'accord, donc l'individu.
Mais juste après ce sacrifice, au chapitre 54, bam, il y a une bascule. Le mot passe soudainement au pluriel. Le texte commence à parler de, je cite, « l'héritage des serviteurs ».
Oh waouh ! L'action réussie d'une seule personne génère une communauté entière de serviteurs. L'un devient le multiple. C'est une mécanique narrative brillante, franchement.
Totalement.
Et d'ailleurs, ce chapitre 49 d'Ésaïe, on dirait que c'est une source d'inspiration récurrente, non ? Le docteur Harmon, il suggère que même le prophète Jérémie fait un peu pareil. Quand Jérémie parle de son appel depuis le ventre de sa mère, ça ressemble beaucoup.
Ouais, c'est le même écho.
Et l'exemple le plus flagrant, en dehors de Paul dans Galates, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 13, Paul et Barnabas y font face à une énorme opposition.
C'est un moment charnière, ça.
Oui, et pour justifier leur décision hyper radicale de se tourner vers les païens, donc les populations non-juives, qu'est-ce qu'ils font ? Ils citent Ésaïe 49. Ils s'en servent comme de leur ordre de mission direct, genre « je t'ai établi pour être la lumière des nations ».
C'est ça. Et cet événement dans les actes, c'est la transition parfaite pour notre troisième étape, l'analyse du texte récepteur, donc la lettre Galate.
D'accord, plongeons dans Galate.
Pourquoi Paul a-t-il un besoin si pressant de se justifier ? Bah, le contexte historique en Asie mineure à ce moment-là, il est électrique. Son autorité est attaquée de front.
Bah oui, parce que contrairement à Pierre ou Jean, Paul, il faisait pas partie des 12 disciples de départ, ceux qui ont vraiment marché avec le Christ.
Voilà. Du coup, en Galatie, ses adversaires l'accusent d'être un apôtre de seconde zone, un imposteur qui aurait inventé ou tordu le message.
Il a donc un besoin vital de prouver que son mandat y vient pas d'une institution humaine, mais que c'est une source divine incontestable.
Exactement. Et toute sa lettre est construite sur cette urgence. Il parsème sa défense de plein de références d'ailleurs. Il y a même une allusion probable à Habacuc 2 au verset 3, au tout début du deuxième chapitre des Galates.
Et toute cette argumentation, elle monte en puissance jusqu'au sommet, la clé de voûte de la lettre, Galates 2:20.
Le fameux verset.
« Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est amusant, parce que c'est le genre de phrase qu'on retrouve imprimée sur des tasses à café, tu vois, ou comme citation inspirante sur les réseaux sociaux.
Ouais, le mantra spirituel par excellence.
C'est ça, les gens le lisent comme une jolie pensée philosophique sur l'humilité, mais quand on applique la grille de lecture du docteur Harmon, l'intertextualité, cette phrase, c'est une équation d'une complexité redoutable.
Ah bah là, le docteur Harmon démontre que Paul, il fait un véritable remix théologique. En une seule petite phrase, il fusionne les concepts des deux plus grands chapitres d'Ésaïe.
Comment ça se décompose, du coup ?
En disant que c'est Christ qui vit en lui, il réactive la dynamique d'Ésaïe 49, donc le serviteur singulier en qui la gloire doit résider. Et juste après, quand il ajoute que ce fils s'est livré pour moi, il incorpore la figure tragique du chapitre 53, le serviteur souffrant qui offre sa vie.
Il synthétise les deux visages du serviteur d'Ésaïe dans sa propre expérience personnelle.
C'est exactement ça.
Bon, là, il faut qu'on s'arrête deux secondes, parce qu'on parle de synthèse magistrale, d'équation exégétique, très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un énorme problème d'ego là ?
Un problème d'ego ?
Ben oui. Comment un simple humain peut-il s'approprier le rôle du serviteur messianique qui doit sauver le monde ? C'est pas le sommet de l'arrogance de prendre la prophétie suprême et de dire « Ouais, au fait, c'est mon rôle à moi ».
Ah, je vois. L'objection est incontournable. Et franchement, le texte cherche délibérément à provoquer cette friction intellectuelle chez le lecteur.
C'est fait exprès.
Oui. Mais la résolution de ce paradoxe, elle est dans la condition même que Paul énonce. Il n'essaie pas du tout de remplacer le Messie ou d'usurper sa place, quoi. Le pivot de son argument, c'est précisément le fait que le Christ vit en lui.
Ah, donc autrement dit, il ne se perçoit pas comme le héros de l'histoire, mais strictement comme le véhicule.
C'est la dynamique centrale, hein. Paul reconnaît, sans aucune ambiguïté, que le Christ historique, c'est l'unique serviteur d'Ésaïe 53. Son sacrifice, il est fait. Mais, puisque la présence de ce même Christ habite maintenant en Paul, l'apôtre devient l'extension opérationnelle de la mission.
Il n'accomplit le rôle d'Ésaïe 49 que par procuration, en fait.
Voilà, c'est pas un vol d'identité cosmique, c'est une relation symbiotique. C'est l'agent prophétique, le Christ, qui réside en lui et qui continue son œuvre à travers lui.
D'accord, je comprends mieux. Ce qui nous amène à la quatrième étape, le dénouement théologique de toute cette démonstration. Si on prend un peu de recul, on a repéré les mots, on a compris le texte source, on a décodé l'argumentaire, mais qu'est-ce que tout ça signifie en fait ?
Le gain tout ça, quoi.
Voilà, c'est quoi l'impact réel de cette découverte sur notre façon de comprendre ces textes ?
Cet impact, le docteur Harmon le conceptualise, notamment dans les pages 69 à 72 de son livre, par ce qu'il appelle l'accomplissement indirect.
L'accomplissement indirect.
Ouais. Et ce concept, c'est une vraie onde de choc. Quand Paul relit les Écritures après sa conversion sur le chemin de Damas, il regarde plus les prophéties comme des prévisions figées dans le passé, il comprend que sa mission d'aller vers les non-juifs, c'était pas une innovation de son pru. C'était l'activation d'un programme qui était déjà encodé dans Ésaïe 49.
Et ça nous ramène, de façon hyper éclatante, à cette fameuse bascule de la grammaire dont tu parlais. Tu sais, le passage du singulier au pluriel dans Ésaïe 54.
Mais la connexion est totale, oui. L'accomplissement de l'individu génère une responsabilité communautaire. Le docteur Harmon, d'ailleurs, il détaille cette application globale dans son chapitre 8. Et les implications, franchement, elles sont vertigineuses pour les gens qui lisent ce texte aujourd'hui.
Vertigineuses comment ?
L'argument de Paul implique que lui, il n'était qu'un prototype. Si ce modèle d'accomplissement indirect est vrai, alors chaque personne qui fait partie de l'Église aujourd'hui, elle est héritière de cette même continuité.
Parce que la logique, c'est que la même source spirituelle, donc le Christ, habite toute cette communauté moderne.
L'architecture de la pensée, elle est là. Le mandat d'être une lumière pour les nations, il ne s'est pas éteint avec les prophètes ou les apôtres. Il se déploie dans le présent par le biais de tous ceux qui portent cette même réalité en eux.
C'est un renversement complet de perspective, quoi. Un texte antique qui dicte directement l'action présente.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, il faut qu'on mentionne, pour ceux qui s'y intéressent et qui voudraient voir d'autres exemples de cette mécanique incroyable, que le matériel du docteur Harmon fournit d'autres études de cas.
Ah oui, il y en a plein d'autres.
Il y a par exemple une analyse complète sur le célèbre commandement du Lévitique, tu sais, chapitre 19, verset 18, sur l'amour du prochain, et comment c'est recyclé dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui veulent creuser, le site utuo.com/sets regorge d'articles et de vidéos pour aller encore plus loin.
Je confirme, se plonger dans ce niveau d'analyse, ça modifie irrémédiablement notre rapport à la littérature ancienne.
En rassemblant toutes les pièces du puzzle, moi ce qui me marque le plus, c'est l'incroyable densité de ces écrits. Rien, mais vraiment rien n'est laissé au hasard.
C'est clair.
Le choix d'une toute petite préposition « en » plutôt que « à », ou alors la décision d'un traducteur d'utiliser le mot « doulos » une seule et unique fois au milieu d'un livre gigantesque. Ces détails, c'est pas des accidents esthétiques. C'est des câbles souterrains qui relient l'histoire d'un individu à un dessin collectif qui traverse les millénaires.
Et je trouve que cette densité, elle nous lance un défi assez piquant pour notre propre époque, tu vois.
C'est-à-dire ?
On vient de voir comment des intellectuels de l'Antiquité, comme Paul, ils abordaient ces manuscrits vénérables. Ils ne les lisaient pas pour accumuler de l'information froide ou juste valider des théories abstraites. Quand ils étudiaient un texte millénaire, ils cherchaient à y lire leur propre existence.
Ils voyaient leur vie comme le chapitre suivant, en fait.
Exactement. Le prolongement direct d'un récit commençait avant eux. L'histoire, c'était pas un musée qu'on visite le dimanche, c'était un espace dans lequel ils entraient activement.
C'est très vrai.
Et c'est la réflexion ultime de ce sujet. Aujourd'hui, on baigne dans l'hyper-information. On engloutit des flux de données, on balaye les textes du regard, on consomme le savoir de manière super passive. Mais on le laisse jamais structurer notre identité.
On choisifie la formation.
Voilà. Alors, que se passerait-il si on abordait l'histoire ou les textes fondateurs, non pas comme des vestiges sous cloche, mais comme un script grand ouvert, un script inachevé où soudainement la prochaine réplique devait être improvisée par celui qui tient le livre aujourd'hui?
Ce qui soulève une question fascinante pour tous ceux qui étudient l'histoire. Quand on finit de décortiquer toutes les couches d'un texte ancien pour en trouver le cœur, peut-être que ce qu'on découvre tout au fond, c'est pas seulement le portrait d'un auteur mort il y a 2000 ans, c'est le reflet des responsabilités qui nous incombent aujourd'hui.